I'm a man. Well, nobody's perfect. I'm a man.
C'est Nobody's Perfect avec ce soir Martin qui réalise. Bonsoir Martin.
Bonsoir Anthony.
Je vous propose, toujours dans notre chronique Crosslit, cette fois-ci vraiment qu'on aborde un genre que j'aborde assez rarement. Alors autant on se mêle d'art graphique depuis quelques temps, de bande dessinée, de comics, de manga. On a peu parlé de dessins érotiques et je vous propose qu'on le fasse ce soir avec la parution chez Hors-Champ, une nouvelle et petite maison d'un livre qui s'appelle Paul Smarra. Il s'agit de la collection Pierre Passebon avec un texte introductif de Jérôme Cagan. Alors, Paul Smarra. Ce soir, donc, c'est vraiment dans un hôtel du sud de la France qu'on s'arrête. Année 20, Toulon, hôtel Le Terminus. Mais ça pourrait être un de ces hôtels borgnes qui accueillent toute une faune interlope. Alors oui, je vous préviens, ce n'est pas un lieu pour des vacances familiales. Martin, je crois que vous venez d'avoir 20 ans, donc on peut quand même maintenant aborder tous les sujets avec vous.
Oh, normalement, ça fait déjà 2 ans qu'on peut.
Ah, très bien. Paul Smarra, c'est un dandy inverti et vibrionnant qu'on va tenter de réhabiliter. Enfin, réhabiliter. Nous, on va le faire modestement. C'est vraiment la courageuse et toute jeune maison Hors-Champ qui le fait en publiant ce qu'on appelle les Erotica de Paul Smarra, ouvrage aux illustrations abondantes qui relève abondamment du porno gay, l'auditeur est averti, commenté par Jérôme Cagan. Je l'ai dit, Cagan, ce passionné des années 20, qui a eu son petit lot de nobos pour ses portraits d'Eugène McCone et de Condé Nast. De Paul Smarra retenait une mention, 3 mots, dans son dossier militaire. Son recrutement fut constamment ajourné. Pourquoi ? Insuffisance de développement. Mention tamponnée dont le vague pour le lecteur de 2023 permettrait des polysémies et des ambiguïtés. Voilà, les chiffres sont têtus. Paul Smarra, il mesure 1m55 et il est très chétif. Il est en gros entre Toulouse-Lautrec, qui mesurait 1m52, et un haricot vert. 1m55, c'est la taille des starlettes. Eva Longoria, Nicole Richie, Lady Gaga font 1m55. C'est pas celle d'un valeureux militaire des années 20. Et puis il faut ajouter à ça, et je cite Jérôme Cagan, une tuberculose pulmonaire. Smarra a suivi d'assez près le calvaire de son ami René Crevel, mort 2 ans plus tôt. Pour savoir que l'affaire est sérieuse, il subit un pneumothorax thérapeutique qui semble fonctionner. Mais il gardera de cette maladie des séquelles. Jérôme Cagan, et on le suit volontiers, attribue à ce corps défaillant l'un des socles de l'esthétique érotique de Paul Smarra. Mais avant de revenir au Terminus, différons le moment de dévoiler les dessins et passons par les années 70 et les œuvres érotiques de Tom of Finland.
Push!
Je le disais, Tom of Finland a codifié, on n'osera pas dire industrialisé, le mâle excessivement viril. On aurait pu parler par exemple du mangaka Gengoro Tagame, mais Tom of Finland, l'illustrateur est certainement plus populaire, pas besoin d'être gay ou d'aimer les dessins d'hommes nus. À partir des années 70, il a influé sur la représentation que vous avez d'un certain mâle. Il a essaimé dans toute la pop culture, influençant jusqu'à la forme du corps de certains acteurs. Existe-t-il un autre artiste qui fasse à la fois jouir et que l'on peut aussi exposer sur la table du salon? C'est le magazine Time Out qui demandait ça à propos de Tom of Finland, et l'éditeur Tasken ne s'y trompe pas, puisque 6 titres de Tom of Finland sont disponibles et font partie de ce qu'on appelle les long sellers. Il est intéressant par ailleurs de reprendre cette citation de Time Out et de penser que quel artiste fait à la fois jouir et qu'on peut exposer sur la table du salon, bah, il suffit d'aller dans n'importe quel musée. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'art, les nus érotiques, les nus masculins et féminins avaient une valeur érotique, au moins auprès de leurs commanditaires. Et donc, on peut penser qu'il existe un patrimoine érotique parce que, et j'emprunte cette idée à une historienne de l'art, et là, je n'ai pas noté son nom, on peut penser qu'il existe un patrimoine érotique parce que le patrimoine artistique n'est pas forcément vertueux. Et ça, il faut le rappeler. Par ailleurs, revenons à Tom of Finland. Alors, le truc qui fascine, c'est le corps qui est issu du narcissisme de gymnase, de ce qu'on appelle le beefcake, que certains dégustaient près de Malibu Beach, un produit de la culture de l'alter à la sexualité débridée, parfois SM, et qui surtout incarne, même nu, un corps de métier. Voilà, parce que ce ne sont pas des hommes, mais avec ou sans l'uniforme, ce sont des bikers, des flics, des ouvriers, des marins. Depuis, les codes ont changé. Je vous l'apprends, Martin. Les codes ont changé et le porno gay s'illustre dans le home sweet home. C'est vive le cul domestique. Avant, on faisait venir, justement, le policier, le plombier, etc. Maintenant, tout se passe à la maison. C'est une affaire de daddies, de lycéens à punir, de demi-frères incestueux. Mais alors, attention que ça soit clair, tout le monde est majeur. Hein. Cette virilité, pour revenir à Tom of Finland, elle doit au bodybuilding. J'insiste là-dessus, qui est une discipline sportive. Alors, est-ce une discipline sportive? Mais en tout cas, c'est une discipline sportive méta, puisque son seul but consiste à travailler son outil de travail. C'est aussi le corps galvanisé. Le corps galvanisé, c'est une idée que j'emprunte à Nicolas Chemla dans son excellent Monsieur Amérique, qui revenait sur la carrière de Mack Manzer, qui était une sorte d'adversaire d'Arnold Schwarzenegger, justement dans les années 60-70. Et puis c'est le corps galvanisé, donc avec quelque chose qui tient de l'acier. Je pense évidemment à Mishima, le soleil et l'acier, son grand texte. L'acier aussi pour lequel les ouvriers travaillaient. Et là, pareil, à la fin de l'ère industrielle, c'est devenu un ersatz, et l'acier est devenu la fonte que ces corps soulevaient, puisque leur corps outil est devenu le seul produit. Il faut noter que le corps construit par Mishima ou Tom of Finland doit aussi à l'imagerie fasciste des surmâles. Tout ça laisse à penser à une virilité tellement trop, une masculinité surjouée, camp pour tout dire. Et Paul Smara, eh bien en fait, on découvre, alors qu'on est dans l'immédiate après-guerre, enfin de la Première Guerre mondiale, on découvre qu'il a représenté ces corps-là avant Tom of Finland. Et c'est déjà le premier attrait quand on feuillette ce livre illustré. On va revenir, oui, à notre hôtel louche. Smara y représente une galerie de mâles en chambre, à la stature inhumaine. Il renvoie peut-être à un fantasme de carapace. Le rêve d'un corps chétif, couvert, protégé d'une cuirasse de muscles et de tendons. Et si Paul Smara fantasmait ce que Gregor Samsa recevra dans La Métamorphose, le célèbre conte de Kafka, vous savez, Martin, Gregor Samsa se réveille un matin dans sa chambre transformé en un énorme insecte avec sa famille de l'autre côté, son travail qui l'attend et que comment va-t-il agir. Et donc la nouvelle est de 1938, elle est donc postérieure au dessin. Hein. Mais vous m'aurez suivi, j'ai envie de rapprocher les dessins de la métamorphose, déjà par l'euphonie des noms. Ça vaut ce que ça vaut, Paul Smara, Gregor Samsa, Franz Kafka, c'est juste pour le plaisir. Pour la ressemblance des lieux, hein, puisque c'est vraiment, tout se passe en chambre, tant dans le conte que dans notre livre de ce soir. Et puis on a affaire à des êtres qui fuient l'ordre conventionnel. C'est-à-dire que les amours homosexuels, et parfois tarifés, dans les années 20, on peut vraiment dire qu'on fuit la convention, on fuit l'académisme, et on se met aussi hors la loi. Rappelons-le, on se met hors la loi, et pas tant pour des faits de prostitution qu'évidemment pour le fait d'homosexualité. Paul Smara, d'ailleurs, qui fréquentait ces lieux malfamés, sera arrêté avec certains de ses vigoureux partenaires. Et c'est vrai que je crois que je ne vous ai même pas montré les dessins en question, Martin. Alors, il s'avère que je n'ai pas reçu le livre parce que c'est vraiment une toute petite maison, mais je vais vous montrer ça au prochain morceau. Paul Smara voudrait sa carapace, donc. Il voudrait sa carapace, mais hélas, il n'a qu'un nénuphar dans le poumon et une insuffisance de développement, à savoir l'opposé de cette dilatation du muscle qui évoque comme une représentation faussée, monstrueuse du corps. On a dit le nom Mishima et forcément on pense à Philip Glass et au Kronos Quartet avec ces airs célèbres de Mishima pour le film de Paul Schrader. Là c'est Mishima Opening. Mishima, rappelons-le, l'écrivain japonais le plus célèbre et peut-être le plus scandaleux du XXe siècle, qui fut un enfant chétif, élevé en chambre, intensément imaginatif et sensible, mais il est parvenu à devenir ce qui l'excitait, à savoir... Bon, alors déjà, il a pris un nouveau nom, parce que Mishima, c'est son nom de plume. En fait, il s'appelait Kimitake Hiraoka. Et puis, il s'est bâti un corps bodybuildé, qu'il a d'ailleurs, avec un narcissisme absolu, et exposé dans des photographies, un corps bodybuildé par la volonté et la fonte, une carapace façonnée et acerbe. Le dessinateur Paul Smara, lui aussi, il va adopter un alias. C'est déjà ça comme métamorphose. Paul Dubois aurait opté pour Paul Smara en lisant Monsieur de Focasse. Alors, Monsieur de Focasse, c'est une sorte de maxi drama queen symboliste, une fantasy camp de Jean Lorrain, un texte dont il faut avoir tenté la lecture. Je ne dis pas qu'on va jusqu'au bout, mais alors par contre, vraiment, les quelques chapitres qu'on peut lire sont assez incroyables. Quand je vous parlais de Tom of Finland, j'insistais sur l'exercice d'une profession, vous l'avez vu, l'appartenance à une communauté, le port d'un uniforme. Il faudrait relever dans les dessins de Paul Smara tous ces signes qui montrent le marin, le docker, le fordéal. Quelques pistes à la page 23, je cite toujours Jérôme Cagan. Ici, le képi d'un légionnaire, là, le bachi surmonté d'un pompon rouge d'un marin, ou encore le béret militaire. De même, a-t-il une bonne connaissance des codes homosexuels en vigueur, bagues à l'annulaire, tatouages en forme d'étoile à cinq branches, qu'on trouvait prolongés de points bleus, avec parfois le mot « amour » placé au centre. Corps sanglé de muscles et crânement baissé sur le front, le bachi, le calot, qui servent de masque. Et il faut rappeler que le regard masqué fait partie de l'icono gay. Yukio Mishima fait pareil avec la large visière de la casquette impériale. Et les bikers de Tom of Finland le font avec la leur. Alors, chez Smara, il y a bien ces corps, ce qu'ils irradient, ce qu'ils font, indéniablement. Ou ce qu'ils attendent de faire aussi. Mais ce n'est pas de l'électricité qui circule. Parce que ce qui est vraiment... ce qui frappe ensuite, après avoir découvert ses corps, c'est le toucher de l'illustrateur. Il a un toucher au crayon qui est vraiment doux. Presque trop doux pour qu'il soit conducteur. Les dessins ont dans la forme une délicatesse, c'est un étalage modeste de tissus qui se drapent, se plissent, ondulent, tendus par les muscles. Pour la peau tannée ou le coton suri, Smara va crayonner quelques ombres et surtout il va aller chercher le blanc sur sa page. C'est vraiment beau. Moi, ça m'a vraiment plu. Ce sont des vêtements mille fois portés qu'on voit mille fois ôtés, des tapisseries jaunies, des draps rêches. Au sol de ces chambres d'hôtel borgne, les vêtements vidés des masses musculeuses qui les remplissaient ont quelque chose d'un peu obscène. Et Smara, il rend finalement une sorte de médiocrité qui certainement ne nuit pas à l'excitation. Il y a comme une magie du médiocre, peut-être même comme un réalisme magique. Tout comme, ne nous y trompons pas, tous ces tissus dans l'image ne servent pas à cacher des choses, ne servent pas à une chasteté trop tardive de toute façon pour être efficiente. Mais, je disais, le toucher est trop doux pour qu'il soit conducteur. Et le coup de crayon de Smara, c'est deux doigts trempés dans l'étang pour recueillir quelques gouttes. Voilà, il y a une rupture entre la prudence du crayon et la rudesse, le cru de ce qu'il croque. Et dans le creux de cette scission se love la puissance de ses érotiques. Alors, au fait, on voit qui à quoi ressemblent les types qu'on voit dans les images, les illustrations, les dessins de Paul Smara. Alors le type de Smara, il est prognate. Prognate, ça signifie qu'il a une mâchoire inférieure assez puissante, comme ça. Il a les pommettes hautes, comme si une prune rosissait sous la tempe. Il a ce qu'on appelle un nez de boxeur, vous savez, ce nez aplati. J'ai appris l'expression, on appelle ça un nez en pied de marmite, ce nez cassé. Et puis, il est très brun, mais plutôt glabre, tempe et nuque rase, ce qui est un attrait érotique universel, et puis musclé. Mais alors, musclé, musclé. Mais bon, c'est ça qui est beau, parce que il y a une exagération. Et c'est, voilà, cette hyperbole, il y a presque un grotesque. Et ce grotesque, on le trouvera aussi chez un peintre comme Paul Cadmus, peintre du XXe siècle. Alors, j'aime moins le peintre Cadmus parce qu'avec lui, on frôle carrément le calendrier des PTT porno-gays soft. Avec Smara, il y a parfois trop de boules de muscles qui l'une sur l'autre érige des silhouettes mafflues, partout le pump de l'arrondi, partout la force du rebondi. Oui, une esthétique du rebondissement, de l'arrondissement. Toutes ces silhouettes symbolisent de façon hystérique ce que Smara représente peu, le phallus turgescent. Taga Taga, c'est Ate Kair. J'adore Taga Taga, je m'en lasse pas. Je pense que ça me fera l'année. Alors, on a parlé des corps, les corps de Paul Smara, mais alors rappelons où on est aussi. On est dans la chambre de l'hôtel Borgne, qui est vraiment le seul décor. Et on a affaire à quelque chose qui est une base du dessin érotique, c'est la théâtralité. La théâtralité, il faut quelqu'un qui regarde, nous, c'est-à-dire la possibilité d'avoir ou des trous dans un mur, ou même un quatrième mur, comme on dit au théâtre, qui tombe, et nous, la possibilité de regarder ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui signifie, par contre, le dessin a forcément une forme de mise en scène, un parti pris. Et ici, c'est cette chambre dont on a les trois murs, avec un quatrième mur qui est tombé. Vous soulignez, Martin, après avoir vu les dessins, ce qui vous a frappé, c'est entre la différence de traitement presque entre les corps et...
Oui, c'est ça. C'est, en fait, le fond est très, très, très subtil, très doux, très léger, presque estompé, en fait.
Oui. À l'estompe, oui.
C'est ça.
Alors que les traits sur les corps vous.
Alors
vous
que c'est ça, les traits sont très marqués, ils sont vraiment présents, c'est presque repassé des dizaines de fois sur le crayon. Et ça vient marquer en plus, justement, comme tu me disais pendant la musique, un peu l'aspect rustre des personnes.
Oui, ils ont un côté vigoureux, rustre. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce terme d'estompe aussi, qui est en effet très présent dans la sensation qu'on peut recevoir. Et entre autres, quand on parle des décors, le quatrième mur, c'est nous qui pouvons mater. À l'époque, le tourisme sexuel, c'est sur les côtes méditerranéennes, il faut le rappeler. Alors, on a eu l'occasion d'évoquer ici, par le passé, Toulon, qui déploie une véritable homo-topographie. Des touristes uranistes investissaient les établissements gay-friendly, tandis que les navires marchands et militaires déversaient des centaines de marins. Ça, c'est Jérôme Kagan qui l'écrivait dans sa bio de Eugene McCone. Il y a Villefranche-sur-Mer aussi, sanatorium du cul pour Cocteau et compagnie. On soigne tout, chagrin compris, en tirant le bambou et de la chair fraîche et ferme. C'est la marine qui fournit. Que voit-on ? Page 47-48, un manteau de cheminée en faux marbre qui permet de poser les bras et dans le miroir se regarder tandis qu'on se fait prendre, qu'on est beau. Quand on jouit. Il y a une clé au premier plan dans ce dessin, une clé dans sa serrure visible. Ça semble un astérisque fragonard 18e siècle, comme ça, tout d'un coup, qui nous indique d'ici un tour de verrou, nous aurons affaire à une scène de soumission. Même les interrupteurs ont un aspect de tétin, de téton, on disait tétin avant, qu'il suffit de pincer pour produire de l'électricité. Là, il y a deux cigarettes aussi qui voisinent en équilibre sur le bord de la table de nuit. Elles noirciront le bois avant de s'éteindre. Ici, on devine le motif du papier peint, des chardons, des œillets, des fleurs en boutons qui ont tout d'un bouquet de verges. Page 99, il y a un type seul allongé sur le lit, les fesses offertes, vraiment comme dans une toile du boucher, un peintre du 18e siècle qui s'illustrait autour de la galanterie, comme ça, alors avec des modèles féminins. Pour le coup. Le visage qui nous est caché regarde la tapisserie où il y a un motif à grosses fleurs à 5 pétales. Et je ne sais pas ce que c'est comme fleur ni même ce qu'elle symbolise, mais moi ce que j'ai vu dans ces 5 pétales, c'est l'idée de 5 pétales égale une tête, deux bras, deux jambes, et notre type véritablement attend quelqu'un, s'offre à nos regards et attend quelqu'un. Le dessinateur tatoue ainsi les rideaux, tatoue les lambris, tatoue la tapisserie du fond de quelques dessins qui racontent les péripéties, parfois comiques, des rencontres hâtives dans les ports. Il y a des phares dressés qui sont, avançons-le, des métaphores. Page 64-65, languissant, bien qu'admirablement découplé, un docker en débardeur rêvasse et le mur derrière, eh bien, il devient un écran, il fait écran, puisque la tapisserie représente un village côtier, le port, des voiliers à pareil, peut-être une part de l'histoire ou des sentiments de ce docker. Une digression, comme si je n'en faisais pas assez, une digression dans ce Nobody's Perfect, toujours sur Paul Smara aux éditions Hors-Champ, ce livre d'Erotica, une très belle collection. Donc une digression, mais on va aller au Japon cette fois-ci, dans l'école du jeune Mishima, qui ne s'appelle pas encore Mishima. L'anecdote est tirée de Confession d'un masque, mais avant, on écoute toujours du Philippe Glass, cette fois-ci par Adrien Lamarca.
«
Dans Confession d'un masque, certainement le texte le plus célèbre de Yukio Mishima, qui raconte entre autres comment il est devenu Yukio Mishima et surtout qui revient sur sa jeunesse et sur la Seconde Guerre mondiale, il y a un moment Omi, qui est la star de l'école. À un cours d'éducation physique et avec la morgue et la nonchalance des possesseurs d'un physique splendide, Omi fait une démonstration de barre fixe. Des bras qui n'auraient pas déparé des tatouages d'encre marine, lit-on. Et les poils qui débordaient des aisselles profondément incurvées d'Omi pour s'étendre en touffes épaisses vers sa poitrine, ses deux buissons noirs et lustrés brillaient, baignés de soleil, laissant entrevoir par endroits une peau incroyablement blanche, aussi immaculée que du sable. Voilà, toute la cour en émoi, et Yukio Mishima marqué du fer rouge de l'excitation. Mishima, là, il joue avec un tabou et un fantasme, la représentation de la pilosité, celle des aisselles, et un tabou japonais qui concerne la pilosité pubienne, hein, on ne peut pas représenter les poils. Mais le caractère érotique de la scène ne trompe pas. Avec cette description des aisselles d'Omi, Mishima, je ne sais pas d'où sort ce Michel, je suis désolé pour Michel d'être mêlé, qu'il soit mêlé à ça. Donc, avec cette description des aisselles d'Omi, Mishima expose la fascination et la douleur face à l'énergie vitale d'un corps inatteignable. Charles Danzig dit de ce passage, c'est un beau divisé dont Mishima déifie tel ou tel élément. Et cela, c'est peut-être une définition de la pornographie. La pornographie tient à la division des corps. Ok, mais je préfère comparer cette page, la page dont je vous parle de Mishima, comparer cette page à un genre littéraire de la Renaissance qui est le blason, quand le poète ne chantait qu'un seul détail anatomique de l'être aimé. Tétin qui fait honte à la rose, tétin plus beau que nulle chose, tétin dur, non pas tétin, voir mes petites boules d'ivoire. C'est de Clément Marot, ça a 5 siècles et on voit parfaitement et de quoi ça parle. Mais j'arrête ici avec cette dernière digression parce que ce que je retiens des érotiques de Paul Smara, c'est que le dessin, lui, contient toujours les corps en entier. Pas de portrait, de buste. Pas de détails, pas de gros plans de quartier. Les corps, malgré leur hypertrophie, tiennent entiers dans le castelet. Ils s'enroulent, se recouvrent, se lovent ou se font attendre en autant de poses incongrues que le plaisir ou la douleur entraîne. Ils se languissent, ils se pressent. Toulon, hôtel le terminus, tout le monde s'étend. C'est donc aux éditions Hors-Champ, avec un long texte introductif dont je me suis beaucoup inspiré de Jérôme Kagan, les dessins de Paul Smara. Et en fait, il s'agit de la collection. Alors, j'ai un petit regret si je devais en donner un concernant ce bouquin que je conseille. Et aux amateurs d'illustration, et aux amateurs d'illustration érotique, et aux amateurs d'illustration érotique gay. Donc, c'est aux éditions Hors-Champ. Je trouve qu'on connaît pas assez, on a beaucoup de détails sur, on a quelques détails sur la vie de Paul Smara, on n'en apprend pas assez sur les dessins. Quand vraiment ont-ils été produits, pourquoi, il y a des détails qu'on aimerait connaître. Est-ce que le crayon, justement, hein, qu'on remarquait tous les deux, est-ce que c'est, Paul Smara adorait travailler avec ça ou non, est-ce que c'est parce qu'il prenait quelque chose qui tenait peut-être d'après nature ou des croquis. On aimerait connaître un peu la vie de ses dessins et là-dessus on n'a pas beaucoup de renseignements dans le bouquin.
Après, est-ce qu'il les donne pas ou est-ce qu'on les a pas?
Est-ce qu'on les a pas, hein? On est aussi avec une figure, on va dire, en quelque sorte secondaire, hein, de la vie artistique. Je cite, j'ai le temps parce que c'est un podcast, j'ai le temps de citer un ou deux et que Benoît n'est pas là. Benoît qu'on embrasse où qu'il soit d'ailleurs. J'ai le temps de citer un ou deux livres. Je mettrai sur le Facebook de l'émission les livres de Jérôme Kagan aux éditions Séguier, ça je vous le mettrai. J'ai parlé de Monsieur Amérique, Nicolas Chemla, un bouquin à lire si vous vous intéressez à l'histoire américaine, l'histoire pratiquement occidentale, culturelle, parce qu'il décide de raconter cette histoire-là à travers un corps musclé. C'est une excellente idée parce que les corps musclés, il y en a partout. Mais par contre, on fait peu de livres intéressants, enfin, je crois, sur le bodybuilding et sur cette histoire du corps au XXe siècle. Donc voilà un livre que je conseille, Confession d'un masque, que j'ai cité. Confession d'un masque, Yukio Mishima, c'est chez Gallimard. Je pense qu'il a dû ressortir en poche. Moi, j'ai le grand format et je l'ai pris avec la traduction du japonais par Dominique Palmé. Voilà pour ce soir. Sur le Facebook de l'émission du Ballistic Café, bien sûr, vous retrouverez d'autres références. On mettra ça évidemment sur le fil de la radio. Merci à vous, Martin.
Merci à vous.
On se retrouve à un autre moment. C'est l'attrait du podcast. On ne sait jamais quand. On ne sait pas qui nous écoute et quand. Moi, j'aime le podcast. C'est nouveau. J'y suis. Ça y est. Ça me plaît.